Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter, la justice en images dans l'instant
M. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Tout est parti de deux photos prises pendant le procès d'Abdelkader Merah et publiées dans Paris Match. L'hebdomadaire fut condamné, mais se pourvoit en cassation. En France, vous le savez, prise de son et prise de vue sont strictement interdites depuis des lustres dans les tribunaux. Des voix s'élèvent désormais contre cette interdiction. Et si elle était archaïque? Même le Conseil constitutionnel a accepté de s'y pencher cette semaine. Il va rendre sa décision dans 3 jours. Imaginez comme aux États-Unis, les caméras autorisées à filmer les débats, les témoins, les verdicts, les magistrats. Imaginez des procès en direct à la télé. Peur d'une justice spectacle, peur aussi des mille et une utilisations que l'on peut faire de l'image, notamment au montage. Mais le croquis d'audience peut-il encore avoir cours à l'ère des smartphones?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Invité de l'instant M ce matin, maître Éric Dupont-Moretti. Bonjour maître.
Bonjour.
Avocat pénaliste, alors les caméras, on ne peut pas dire que vous vous en teniez loin, mais êtes-vous prêt à les voir entrer dans le prétoire? C'est une autre question. On vous la pose en attendant l'avis du Conseil constitutionnel qui sera rendu vendredi matin. Un petit détour historique si vous le permettez, maître, parce qu'il faut comprendre pourquoi les caméras sont interdites dans les tribunaux en France depuis 1954. On parle de la loi de 1881, mais en réalité cette interdiction, elle est très postérieure. Elle a été intégrée ensuite à la loi de 1881 qui régit les droits et les devoirs de la presse. Alors, 1954, c'est le procès Dominici. Il est ici commenté par l'illustre Frédéric Potcher.
Ici Frédéric Potcher qui vous parle du palais de justice de Digne. Le procès du vieux Gaston Dominici a commencé à 9h comme prévu. Grâce à la fermeté et aussi à la compréhension du président du tribunal civil, Monsieur Oran, la foule qui se pressait très dense a pu être contenue. Et la plupart des journalistes et photographes qui se pressaient à l'entrée ont obtenu satisfaction.
Alors il faut imaginer mettre les appareils photo de l'époque avec les ampoules à incandescence. Il faut imaginer la folie populaire et médiatique et politique de ce procès, puisqu'on raconte aujourd'hui que les photographes montaient sur les tables pour pouvoir photographier le vieux. D'où l'obligation du dessin de presse pour ne plus troubler les débats, pour protéger les droits des parties, je cite, et garantir l'autorité et l'impartialité de la justice. C'est l'article 38 ter de la loi de 1881. Ce dessin de presse, il vous paraît totalement caduque et archaïque aujourd'hui, maître ?
Oui, bien sûr, parce que d'abord les journalistes peuvent rentrer à l'ouverture du procès.
Oui.
Et ils peuvent photographier. Mais à la condition tout de même de recueillir l'assentiment de l'accusé.
Ce qui est
la moindre des choses. Bah, il a un droit à l'image.
Voilà.
Donc il faut normalement, encore que certains s'en affranchissent, lui demander l'autorisation.
Donc concrètement, on peut prendre en photo le tribunal, on peut prendre en photo l'arrivée du procès, l'arrivée du prévenu, on peut le prendre en photo dans son box avec ses avocats.
On ne peut pas prendre en photo les jurés, ce qui me paraît normal, et si les choses devaient changer, il faudrait maintenir cette interdiction pour la sécurité des jurés.
C'est une
évidence.
Garantir leur anonymat.
Bien
et ensuite,
sûr.
Ensuite, on range appareils photo, caméras et les appareils de prise de son dès le début des débats. Voilà. Là où on en est.
C'est ça, et le président donne plusieurs avertissements, parce que ça prend beaucoup de temps pour remballer le matériel, même s'il n'a plus la taille du matériel de 1954.
Justement, aujourd'hui,
ça traîne toujours un peu, on essaie toujours d'avoir une petite image de plus, mais finalement tout le monde sort, et les débats peuvent alors s'ouvrir.
Alors, on va raconter ce qui s'est passé au procès d'Abdelkader Merah devant la cour d'assises de Paris. Vous étiez l'un de ces deux avocats. Il y a eu deux photos publiées par Paris Match. La première, c'est le djihadiste dans le box, vitré, attendant son verdict. Devant lui, il y a ses deux avocats, dont vous, maître. Et puis, une autre photo, la mère de l'accusé, qui était à la barre des témoins. Ça a été publié dans la version papier, ça a été également tweeté. Et ça a été publié une semaine après la fin du procès. Zéro impact, a dit à l'époque l'avocate de Paris Match. Et vous, qu'en pensez-vous de cette photo ?
Ben, zéro impact, mais enfin, c'est une photo volée. On n'a pas demandé à Merah s'il acceptait. on ne nous a pas demandé non plus, ni à Antoine V, ni à moi-même, si mm-hmm. nous acceptions. Et on était dans l'enceinte, on était à l'audience.
À l'audience, ça s'est passé. Donc, en attendant le verdict. Même, d'ailleurs, on ne sait pas d'où vient la photo, puisque...
Oh, c'est plus ou moins d'où vient la photo, bien sûr.
Bah, y a là quand même, on protège quand même encore les sources des médias, donc on ne sait pas d'où vient la photo.
Pardonnez-moi, moi je ne protège pas la source. Là. D'abord, je ne suis pas tenu au secret des sources.
Des sources, oui.
Mais... Voilà, on sait à peu près d'où ça vient.
Mm-hmm, d'accord. Pour Paris Match, publier cette photo, notamment de la mère d'Abdelkader Merah, montrait l'attitude détachée et indifférente à l'égard des victimes, mieux qu'un récit en mots. D'où la justification de la publication.
Bon, c'est n'importe quoi. Mm-hmm. Franchement, c'est pas sur une image que l'on peut déterminer un sentiment. Ou alors, on se passerait des témoins, finalement. On promènerait leurs photos, puis on saurait ce qu'ils pensent. Toute petite parenthèse, je l'ouvre très très rapidement.
Allez-y.
Et je la ferme. Vous avez dit, vous, la mère de l'accusé, Madame Merah. Vous savez que ça a été dénié à quelques mètres d'ici, d'ailleurs, par Monsieur Demeurand. Mm-hmm. La mère de l'accusé, vous avez raison. Mm-hmm. Voilà. Et le box, oui, qui a été pris en fraude par Match.
Alors, Paris Match a été condamné en première instance, condamné en appel, se pourvoit en cassation. D'où cette question qui est posée au Conseil constitutionnel. Est-ce que cet article 38 terre de la loi de 81 est aujourd'hui caduque? Votre confrère Louis Boré, qui est par ailleurs président de l'Ordre des avocats, a plaidé pour qu'on lève cette interdiction. Il a dit, c'est un texte iconoclaste, c'est un texte qui hait les images, c'est un texte qui chasse les images de nos tribunaux. Alors, va-t-on avoir droit à ce qu'on a communément dans les pays étrangers? Là, on vous a pris l'Afrique du Sud, un procès extrêmement médiatique. L'athlète paralympique Oscar Pistorius, qui a été accusé de l'assassinat de sa petite amie.
Entouré d'une nuée de caméras, Oscar Pistorius pénètre dans le tribunal de Pretoria, le visage fermé. Face à lui, dans la salle d'audience, une seule juge. Et une première question.
Comprenez-vous les chefs d'accusation, Monsieur Pistorius?
Oui, votre honneur.
Que plaidez-vous?
Non coupable, madame le juge. Non coupable d'avoir assassiné Reva Steenkamp, sa petite amie mannequin de 29 ans, le jour de la Saint-Valentin 2013.
Procès éminemment regardé en direct dans le pays, comme ça a lieu dans beaucoup de pays. Alors maître, vous êtes contre cette photo volée et publiée par Paris Match. Vous êtes pour ou contre les caméras, les appareils photos, les preneurs de son pendant les procès?
Je suis pour.
Vous êtes pour?
Oui, mais à certaines conditions évidemment.
Alors d'abord, pourquoi êtes-vous pour?
Alors d'abord les conditions, parce que c'est plus rapide
si
qu'on, ait l'assentiment de l'accusé, c'est la moindre des choses, qu'on protège évidemment les jurés.
D'accord.
Bien.
Et les témoins?
Alors,
parce qu'il y a des témoins qui risquent beaucoup en venant à la barre, parfois.
Et certains témoins, mais ça, dans le procès Merah, par exemple, les policiers, usant d'une autre disposition de la loi, se sont exprimés derrière des rideaux.
D'accord.
Il y a des témoins qui veulent être protégés, c'est légitime, etc. Il faut faire attention à tout ça.
Comment pouvez-vous imaginer qu'un prévenu accepte d'être filmé? Imaginer qu'un prévenu accepte que son procès soit diffusé en direct à la télé?
Mais je peux l'imaginer parce que si un homme veut que son innocence éclate au grand jour, il peut vouloir la publicité. D'abord, rappelons que la publicité... c'est une garantie de la justice. Voir comment les juges jugent. Bien. Et aujourd'hui, on a des tweets. C'est-à-dire qu'on sait pratiquement en live, pardonnez-moi cet anglicisme, ce qui se passe. Sauf que le tweet, il ne reprend pas toujours l'intégralité de ce qui est dit, tout simplement parce que le débit oral est plus rapide que la main qui écrit ou qui transcrit. Et puis, il y a aujourd'hui un certain nombre de montages. Donc, tout cela passe finalement sous le prisme de l'objectivité du journaliste qui suit l'audience.
Mm-hmm.
Bien, il y a d'ailleurs des journalistes qui suivent les audiences sans les suivre. Ils viennent une heure, ils s'en vont, ils reviennent une heure après. Et puis, il y a les grands chroniqueurs judiciaires qui sont là du début à la fin du procès.
Mais qui n'en sont pas moins subjectifs. Ils font leur travail
et
c'est leur plume.
Au moins, ils font un travail complet. Voilà, parce que selon le média que vous choisissez, bah, vous avez des petits morceaux. Et alors là, l'intégralité du procès permet aux gens de... Puis le premier argument, c'est que dans une salle d'audience, il y a 200 places ou 300 places.
Oui.
Mais il y a peut-être 500 personnes qui veulent suivre le procès ou 1000 personnes.
Est-ce que vous pensez vraiment mettre en toute bonne foi que 200 personnes qui assistent à un procès, c'est la même chose que 2 millions de personnes qui le regardent en France à la télévision en direct?
Mais quand c'est un procès...
Pour le bon déroulement de la justice.
Pardonnez-moi, quand c'est un procès qui intéresse tout le monde, vous n'en avez que des comptes rendus partiels et forcément partiaux par le prisme de ceux qui s'ouvrent le procès. Qui suivent le procès, pardon. Alors, moi je dis que, oui, c'est une garantie. Et puis cette histoire de tweet, aujourd'hui, tous ceux qui veulent suivre le procès. Alors vous me direz, tous ceux qui veulent allumer leur télévision, oui. Mais les gens qui sont intéressés, ils suivent. Et ils le suivent par petits bouts, par petits morceaux. Et moi, je préfère que les gens se fassent directement leur idée. Puis, il y a un autre argument, c'est que plus on regarde la justice, et plus la justice a tendance à se moins mal comporter.
Ah oui ?
Écoutez, la semaine dernière, je plaidais dans une affaire où la présidente de la cour d'assises, après ce qu'on appelle un incident d'audience, a levé l'audience, et elle a emporté à deux reprises des jurés en les tenant par l'épaule. Ben, je pense que s'il y avait eu des caméras...
C'est choquant ?
Ah oui, c'est infiniment choquant, cette
Pourquoi
proximité. Parce que le juge, c'est pas le copain des jurés. Il doit garder une certaine distance. Enfin, c'est la moindre des choses, non? Surtout quand vous êtes jugé, vous vous dites, ben, là, je sais pas trop, mais il y a une espèce de proximité qui est pas très saine.
Donc vous pensez que s'il y avait une caméra...
Et dans la même audience, nous étions en appel, on a vu pendant une journée et demie le président qui avait condamné en première instance l'accusé. Bah, je suis pas sûr que si les caméras avaient été présentes, ils se seraient autorisés cette petite promenade en appel.
Je vais vous faire écouter votre confrère Louis Boré, qui est donc avocat et qui a plaidé au Conseil constitutionnel. Lui, il est pour, comme vous, qu'on puisse faire entrer les caméras dans le prétoire.
Je pense que la justice française et l'État n'ont pas à avoir honte de ce qui se passe dans les salles d'audience. Je pense que c'est tout à fait montrable, je pense que c'est tout à fait filmable, je pense que ça devrait être montré, ça devrait être filmé pour casser cette espèce de défiance que les Français ont à l'égard de leur justice, pour qu'ils arrêtent de fantasmer sur ce qu'il se passe dans ces salles et qui serait justement immontrable.
Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là une once de mauvaise foi ? Est-ce que vous pensez que la justice a vraiment quelque chose à cacher en chassant les caméras ? Est-ce que vous pensez que cette absence des caméras nourrit vraiment une sorte de fantasme citoyen, qu'on dérobe quelque chose à leurs yeux ?
Écoutez, moi je vois des... Vous savez, la question elle s'est posée quand il s'est agi de filmer les gardes à vue. Certains policiers étaient totalement contre. Et certains policiers étaient pour. Et les policiers qui se tenaient bien, qui se comportaient bien, étaient pour. Il s'est dit, comme ça, on verra que les choses ont été bien faites. Ben, il en va de même ici. Hein. Les présidents qui se comportent bien, qui sont respectueux des accusés, des droits de la défense, qui tiennent toutes les parties à équidistance, qui instruisent à charge et à décharge,
pour être totalement,
laissez-moi terminer si vous le voulez bien, ils n'ont rien à craindre des caméras. Ceux, en revanche, qui se tiennent mal, ils n'ont pas du tout envie qu'on les voit faire leur petit truc.
Filmer une garde à vue et garder une trace, c'est très différent, maître, que médiatiser, c'est-à-dire ajouter la pression médiatique. Vous dites, les caméras vont obliger les gens à se tenir bien. Elles peuvent aussi inciter et induire beaucoup de comportements qui n'ont pas lieu justement parce qu'on est loin, parce qu'on est protégé des caméras.
Oui, madame, mais à tout choisir, moi je préfère que les choses soient... plus suivi et plus regardé. Parce qu'au fond, tout ça, c'est une histoire d'élite. Il y a les juges, il y a les avocats, il y a le public, en nombre extrêmement restreint, quelques journalistes accrédités, autorisés, stop et fin. La justice est rendue au nom du peuple français. Mais regardez les débats parlementaires. Bah, ils sont suivis, c'est plutôt pas mal. C'est un exercice démocratique, direct. Vous pouvez regarder, critiquer, apprécier.
Ils sont toujours diffusés à la télévision en 2019.
Depuis 35 ans que je fais ce métier, je constate que des magistrats, de grands magistrats, se tiennent merveilleusement bien et que d'autres non. Et il me paraît nécessaire qu'on puisse voir comment fonctionne et comment tourne notre justice, en tous les cas, et je le redis, pas par le prisme de tweets qui sont glanés comme ça et qui souvent sont incomplets.
Pas par le
et pour ne rien vous cacher,
prisme, le fragment.
À l'exception de quelques grands chroniqueurs judiciaires, quand je lis parfois les comptes rendus, je ne retrouve pas toujours les procès que j'ai plaidés.
Est-ce que vous pensez que si les procès dans lesquels vous avez plaidé étaient filmés, vous les retrouveriez, vous y retrouveriez ce que vous avez vécu en live, puisque vous aimez bien ce mot, dans le prétoire? Voilà ma question, c'est-à-dire que faire de ces images une fois qu'on les a captées? Est-ce que vous êtes pour une diffusion en direct? Il y a derrière toute la question du montage. On peut faire dire beaucoup de choses aux images, maître, beaucoup de choses, qui risquent là totalement de vous échapper. échapper et totalement d'échapper à votre client.
Non, mais vous me demandez ce matin de venir avec un kit.
Non.
Alors, pardonnez-moi.
Non. Mais c'est une réflexion.
Non, mais il y a plusieurs strates.
Absolument.
Dans l'évolution qui viendra ou non selon la décision
du Conseil constitutionnel.
Du Conseil constitutionnel. Doit-on filmer ? Moi, je dis oui. Doit-on diffuser ? C'est une autre question.
Voilà.
Est-ce que tous les procès doivent être soumis à cela ? Moi, je dis non. Il y a des procès qui mettent en cause des mineurs. Nous parlions tout à l'heure de protéger...
D'ailleurs, la justice opère aussi à huis clos, parfois, pour protéger des mineurs.
Mais évidemment.
Hein, bien sûr. Oui, oui.
L'exception à la publicité, qui est une fois encore une garantie démocratique d'une bonne justice, c'est les mineurs, par exemple. Mm-hmm. Et c'est tout à fait légitime. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure de protéger les témoins, on parlait de protéger les jurés. Il faut aussi protéger les victimes, évidemment, qui n'ont pas forcément envie d'étaler leur vie. Donc, tout ça, ça doit faire l'objet d'un assentiment. Mais la situation actuelle est une situation d'hypocrisie. Voilà. C'est une situation, je le redis, qui retransmet les choses de façon partielle et partiale.
Alors, il y a une exception, des procès filmés pour la constitution d'archives historiques et d'archives de la justice. On vous fait écouter le procès AZF. Souvenez-vous, c'était l'explosion d'une usine à Toulouse, procès qui date d'il y a 11 ans.
Barbie, Touvier, Papon, voilà les trois seuls procès dont les audiences ont été filmées dans leur intégralité. Alors forcément, quand l'ancien directeur d'AZF, Serge Bichelin, a appris que son procès se déroulerait devant les caméras, la pilule n'est pas passée. Son avocat a d'ailleurs annoncé qu'il souhaitait saisir la Cour de cassation sur ce point.
Si on doit demain filmer tous les procès, c'est un débat de société qui est sur lequel on peut avoir une opinion qui peut être nuancée, mais c'est pas pour autant qu'il faille déformer la loi et l'appliquer à des cas qui ne sont pas les bons.
Alors évidemment, procès AZF au même niveau que le procès Paul Touvier en 94, procès Papon en 97 et le procès Barbie en 87, ça a posé beaucoup de questions. C'est un monopole de l'État, il n'y a que l'État qui a le droit de filmer les procès. Et là, en effet, d'ailleurs, les archives sont très protégées pendant 20 ans, hein. On n'y accède que sur autorisation, on ne peut pas les dupliquer, on ne peut pas les diffuser, Maître Dupond-Moretti.
Alors, il y a un petit bémol à cela, ouais. C'est que aujourd'hui, les procès sont filmés pour permettre un meilleur accès à la révision. Ils sont tous filmés aujourd'hui. Mmh. Et évidemment, ils sont archivés. Et ça n'est que dans l'hypothèse d'une révision qu'on va voir ce qui a pu se passer. Bon. Oui, la question qui est posée par mon confrère, elle est légitime. A-t-on obtenu l'accord du prévenu ? À l'évidence, non. Et on sent d'ailleurs toute la nuance dans son propos. Il dit, oui, cette opinion peut se discuter, mais là, en l'occurrence, on est dans la prospective.
La question s'est posée pour le procès Abdelkader Merah. Est-ce qu'il fallait que ce soit filmé ? Est-ce qu'il fallait que ça vienne nourrir les archives de la justice ? Mais il y a une grande différence, vous me l'accorderez, entre constituer des archives, donc c'est un matériau de travail, et ensuite que ça devienne de la chair à télévision, de la chair à chaîne d'info. On voit bien ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire, oui, il y a diffusion en direct des procès, mais ensuite, les journaux télévisés fabriquent des petites boucles
là,
avec des montages.
Mais pardonnez-moi, là, c'est pas le cas. Quand vous avez un procès dit médiatique, il y a toute la presse française qui est là, toute la presse judiciaire française. Bon. Donc, vous avez des images, vous avez des sons, vous avez des journaux, voilà. Et c'est pas de la chair, comment vous dites ? De la chair
à chaîne d'info ?
Ouais.
Si.
Par exemple, ouais.
Si, bien entendu.
Et une diffusion sur les chaînes d'info. On dit plus d'un type aujourd'hui, une fois qu'il est ou qu'il n'est pas coupable, on le dit 20, 30, 40 fois.
À longueur de journée.
À longueur de journée. C'est bien la définition de la chaîne d'information continue. Les choses ont changé, faut le prendre en considération. Maintenant, j'ai une opinion qui n'est pas encore affinée sur la question, parce que peut-être que nous parlons dans le vide. Il faut d'abord attendre la décision du Conseil constitutionnel. Moi, je pense que, et j'espère qu'il aura la sagesse de constater d'abord que nous sommes dans un archaïsme qui n'a plus de raison d'être. Je vous donne un petit exemple. Les témoins, normalement, ils doivent être enfermés dans la salle des témoins. Ils peuvent pas communiquer entre eux. Bon, on sait bien qu'en réalité, ils ne parlent que de l'affaire. Eh ben, aujourd'hui, vous avez les tweets. Donc, quand on dit aux témoins, tout au début, le procès commence le lundi. Écoutez, madame, vous viendrez témoigner mercredi à 11h. Eh ben, de lundi à mercredi, elle a tous les tweets. La dame en question. Alors que normalement, elle ne devrait pas être informée de ce qui s'est passé à l'audience. Ben, est-ce qu'il faut pas modifier ça une fois pour toutes?
Merci, Maître Dupond-Moretti. On attend l'avis du Conseil constitutionnel. Et alors là, je peux vous dire, on va s'en donner à cœur joie. On va faire 12 émissions sur le sujet parce que c'est un sujet passionnant.